Bonsoir à tous, bienvenue maintenant dans ce tout nouvel épisode de Passerelle, l'émission qui vous fait voyager dans le temps et dans l'espace et fait se rencontrer toutes les disciplines. Gudule et moi sommes de retour pour ce direct d'Halloween qui va être, c'est promis, effrayant et surprenant. Alors Halloween, c'est les potions magiques peu ragoûtantes, les sorcières mal aimées, les spectres effrayants, les rumeurs qui font peur et les fantômes mystérieux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de choses peu ragoûtantes, mal aimées, effrayantes, qui font peur, mais peut-être pas comme vous l'imaginez, et qui sont aussi un petit peu mystérieuses. En vedette aujourd'hui dans Passerelle, j'ai nommé... Une idée ? Quelqu'un a une idée ?
Non.
Eh bien, il s'agit du rat.
Time Trap a prouvé que le voyage dans le temps finira bel et bien par exister un jour.
C'est une fiction et puis je trouve le concept tellement sympathique.
On a vouloir créer un lien.
Faire voyager dans le temps, moi j'y croyais pas trop.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est pas très sexy, mais si vous n'aimez vraiment pas les rats, continuez quand même de nous écouter et imaginez-vous le gentil Rémi de Ratatouille. Il est pas mignon avec ses petites toques de cuisinier et ses petites moustaches. Oui, pardon. Finissons cette introduction avant de digresser. Ce qui est drôle, c'est que quand on s'intéresse aux rats de plus près... Oui, c'est bon. Pas trop près quand même, j'aime pas non plus trop ces bestioles. Eh bien, on peut aborder tout un tas de sujets très différents. L'urbanisation et ses travers, la peur de la mort à travers l'histoire, la propagande des mouvements de population depuis des siècles, et une grande question, le rat est-il responsable de la peste ? Ah oui, Gudule, t'as raison, donnant la parole à Bourdon de Sigré, l'auteur rappelait que, je cite, « les rats fournissent, dans le genre historique, le plus beau sujet du monde. Ils ont rapport à tout, tout a rapport à eux. » Un point de vue que partage l'historien Michel Dancel, écoutons-le.
C'est-à-dire qu'à tous les moments de l'histoire et dans toutes les civilisations, le rat a occupé une place majuscule.
Et c'est, je crois, Gudule, c'est une transition parfaite pour introduire notre première partie, le rat. Dans l'histoire. Alors commençons d'abord par les bases. D'où vient le rat ? C'est vrai, c'est une question qui peut se poser. Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux sortes de rats. Le rat noir d'abord, ou Rattus rattus, qu'un nom original, qui serait présent très tôt en Occident, mais aurait été rapporté d'Asie ou d'Orient par les croisés. Les avis divergent à ce sujet. Et puis ensuite, il y a le rat gris, ou le surmulot. C'est notre rat d'égout. Lui, il vient probablement d'Asie centrale et aurait été maintenu hors de l'Occident par le rat noir, jusqu'au jour où il a rejoint l'Occident de manière plutôt spectaculaire, en traversant la Volga à la nage et par millions, sous les yeux effarés des populations, tout ça pour arriver à Paris en 1750. De là, nos rats d'égout ont envahi l'Europe, les États-Unis et le monde entier en très peu de temps, chassant leur ennemi, le rat noir. En bref, aujourd'hui, c'est le rat gris qui domine. Alors, mais oui, Gudule, tu as raison. Ce rat noir qu'on déteste tant aujourd'hui, comment était-il perçu il y a des siècles ? Eh bien, dans l'Antiquité, les rats sont accusés de s'attaquer aux récoltes et de provoquer la famine. Mais attention, puisqu'on va quand même essayer un petit peu de défendre les rats dans cet épisode, les pauvres petits rats qui sont toujours victimisés, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y avait des famines que les hommes affaiblis étaient moins en mesure de lutter contre les rats. Donc attention aux raccourcis un peu trop rapides. Au Moyen-Âge ensuite, le rat, c'est le mal incarné, une menace, capable d'envahir des villes entières et d'en chasser les habitants, capable aussi de transmettre à l'homme et au bétail une myriade de maladies. Bref, un rongeur capable d'envahir des villes et des pays entiers pour y propager le vice. Et donc, comme tous les autres animaux nuisibles ou redoutés, il est victime, attention, tenez-vous bien, d'excommunication. Bref, d'ailleurs, tout ce qui se fait peur et tout ce qui nourrit des rumeurs et des récits étranges... Les récits abondent quand il s'agit de parler du rat. On raconte qu'un roi de Pologne aurait été dévoré vivant par un rat devant sa cour pour avoir tué ses oncles. Autre récit, c'est la légende de Hatton. Au Xe siècle, Hatton, l'archevêque de Mayence, aurait été mangé vivant par des rats dans la tour aux rats, qui est bien réelle et se trouve à l'ouest de l'Allemagne, pour avoir enfermé les pauvres de sa cité dans une grange qu'il aurait incendiée. Mais ce qui est curieux, et ce que j'ai appris en préparant l'émission... Oui, bon, ça va, je sais que toi, tu savais, Gudule, t'es pas obligé de... Oh là là, tu m'énerves. Eh bien, c'est qu'on... En fait, finalement, à part dans une citation de Strabon qui reste assez vague, on ne fait aucune allusion à la peste comme étant une maladie transmise par le rat. Oui, Gudule, c'est seulement à la fin du 19e siècle, après la découverte du bacille de la peste, que l'on comprend que le rat peut être piqué par une puce, transmettre ensuite cette puce à l'homme, même après sa mort, et permettre donc à cette puce d'inoculer aux humains le bacille de la peste. Au 18e siècle donc, le rat a une image double. Il est certes l'image de la souillure et de la saleté, mais il est aussi un modèle d'entraide et de sagesse. Bref, et la peur des rats en lien avec la peste, finalement, ne serait peut-être apparue qu'au XIXe siècle, au moment de la diffusion des théories hygiénistes. Bah oui, tiens, t'as raison, Gudule. Grande question. Le rat est-il responsable de la peste? Eh bien, en fait, oui, en partie, mais attention au raccourci un peu rapide. D'abord...
Raccourci
D'abord, ce qui... Jeu de mots, j'avoue, je n'avais pas pensé à ce jeu de mots, mais... D'abord, ce qui transmet la peste n'est pas le rat lui-même, mais la puce qu'il porte sur lui. Ensuite, d'autres animaux peuvent transmettre la peste, comme le loir, le hamster, le pou ou la gerbille. Et parfois, la peste se transmet même, d'un homme à l'autre. C'est le cas de la peste pulmonaire. Et puis, le rat qui transmet la peste, c'est surtout le rat noir, puisqu'il vient mourir en surface. Or, ce rat noir a été supplanté par son cousin le rat gris au XVIIIe, un rat qui porte lui aussi la peste, mais qui restait mourir dans son trou, ce qui diminuait les risques de contamination. Et ensuite, et surtout, la peste se propage aussi grâce à d'autres facteurs, comme la surpopulation par rapport aux ressources, les famines ou la population affaiblie par des guerres, comme la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, se demandent certains, si le rat est établi en Occident depuis des siècles, pourquoi n'y a-t-il pas eu de peste avant 1348 ? Il y a bien eu certes la terrible peste de Justinien, en Italie, mais aucun texte ne mentionne une présence anormale de rongeurs, et les pays où se trouvait le rat noir furent d'ailleurs les moins touchés. Alors oui, Gudule, c'est vrai, dans certains cas, les rats ont effectivement propagé la peste, notamment à cause des bateaux des lignes commerciales qui transportaient des rats contaminés. Et d'ailleurs, la peste n'est pas une histoire si ancienne que ça, puisqu'elle ressurgit en 1894 à Hong Kong, puis en Californie et en Mandchourie au début des années 1900, toujours à cause des bateaux. Et c'est là qu'on peut citer l'artiste Banksy, qui a fait d'un rat masqué un de ses symboles. Il dit, je cite, « Les rats sont capables de renverser des civilisations entières ». Et en effet, le rat, en tant qu'animal véhiculant la peste, pas toujours on l'a vu, mais des fois quand même, a joué un rôle clé dans l'histoire du monde. Et oui, parce que les épidémies de peste ont littéralement bouleversé le cours de l'histoire. Oui, Gudule, ça va, les preuves arrivent, calme-toi. D'abord, la peste aurait tué entre un tiers et 50% de la population européenne en un siècle, au XIVe siècle. C'est pas dingue, ça? En 5 ans, elle emporte un tiers de la population européenne. La France passe de 17 à 10 millions d'habitants. L'Angleterre perd 60% de la population en 5 ans seulement 5 ans. Et à Marseille, la moitié de la population a disparu en moins de 6 mois. Imaginez-vous les conséquences économiques et sociales d'une telle perte démographique ? Et puis ensuite, la peste a bouleversé les consciences. Elle a contribué à alimenter les peurs, les conflits, les superstitions, et a forgé l'image d'un Moyen-Âge noir et obscur. Et de même, la peste a pu engendrer la guerre. Sous Justinien en 541, quand la peste se propage, et avec elle les troubles sociaux, la solution trouvée, c'est de rassembler la population contre un ennemi extérieur. Donc parfois, peste égale guerre. Bon, là, encore une fois, c'est un raccourci, mais n'empêche que c'est pour vous faire retenir les choses plus facilement. Et puis, la peste nous parle aussi des conséquences d'un monde globalisé. Alors non, t'inquiète pas, Gudule, je ne me suis pas reconvertie en prof de géo de terminale, mais je voulais juste te dire que la peste se propage par bateau ou suite à l'invasion d'armées. On voit les conséquences de cette globalisation. Bref, on peut dire que le rat, en tant que vecteur de la peste, a un peu changé la face du monde. Alors cette pause, c'était un extrait de l'album de Frank Zappa, Hot Rats, est donc l'occasion de faire le point. Dans l'histoire, la place du rat est d'abord importante, puisqu'il a véhiculé une maladie qui a eu d'immenses conséquences à tout point de vue. Mais beaucoup de choses dépendent aussi du point de vue que l'on porte sur ce rongeur. Alors oui, tiens, bonne idée, puisque tout ce qui est craint, on le sait, est l'objet de croyances, de rumeurs et a une place importante dans l'imaginaire collectif, et que le rat ne déroge pas à la règle, voyons voir quelques croyances populaires dont ce rat est l'objet. En Lorraine, pour se débarrasser des rats, on récite une prière à Sainte Gertrude, qui aurait le pouvoir d'éloigner les rongeurs, sans doute parce qu'elle est aussi associée au chat. L'explication est peut-être moins irrationnelle qu'on le croit. On parle aussi de la créature mythique et folklorique du roi des rats. Même si en fait le roi des rats en réalité, c'est simplement un regroupement de rats dont les queues auraient été emmêlées les unes aux autres. Allez voir des photos sur internet, c'est absolument dégoûtant. Oui, Gudule, j'y viens. Le mythe le plus célèbre lié aux rats est sans doute celui du joueur de flûte de Hamelin, retranscrit par un conte par les frères Grimm. Il était une fois la ville de Hamelin, envahie par les rats, et dont les habitants mouraient de faim. Arrive un jour un joueur de flûte auquel le maire promet 1000 écus pour débarrasser la ville des rats. Par sa musique, l'homme attire les rats jusqu'à une rivière où ils se noient. Mais les habitants refusent de verser au joueur de flûte la somme promise. Le joueur de flûte, pour se venger, attire donc les enfants par sa musique pour les emmener, selon les versions, dans une grotte ou au sommet d'une montagne. Et il semblerait que dans la réalité, des enfants de Hamelin aient effectivement disparu mystérieusement. Les pistes évoquées pour expliquer la disparition sont nombreuses. Ils étaient contaminés, ils se sont noyés dans la rivière, ils ont succombé à la danse de Saint-Guy, une tradition de danse superstitieuse, ou bien ont suivi un recruteur de l'armée pour créer leur propre village. Quoi qu'il en soit, le récit a inspiré Prosper Mérimée, Goethe et plus récemment des comédies musicales, un animé japonais, des séries télé et un film Le Joueur de Flûte. Bref, je vous laisse aller voir tout ça par vous-même. Alerte, européanocentrisme, alerte, je répète, alerte. Oui, bon, ça va, Gudul, calme-toi, j'allais te le dire. Si en Occident, le rat a mauvaise presse, en Orient, oui, allons faire un tour ailleurs, il est plutôt symbole de l'intelligence et de la chance. Tu nous emmènes voyager un peu, Gudul ? En Inde d'abord, le rat est perçu comme inoffensif et on peut le voir se promener tout naturellement parmi les hommes. Cette bonne image, le rat la doit à l'hindouisme. Il serait en effet la monture de Ganesh, une divinité donc au panthéon hindou. Et il serait donc un animal permettant d'accéder à la sagesse. Et d'après une légende locale, les rats seraient des réincarnations de la sage mystique du XIVe siècle, Camille Mata, et de sa famille. Du coup, dans le temple dédié à cette sage, vous trouverez donc des rats par milliers. Et d'ailleurs, la nourriture et les boissons goûtées par les rats sont bénies. Partons ensuite un peu plus au nord-est. En Chine, le rat est le premier animal du cycle du zodiaque associé à l'intelligence et à la ruse. Et au Japon, le rat est considéré comme messager de la divinité de la richesse et du commerce, Daikokuten. D'ailleurs, en parlant d'argent, le rat en Occident est aussi synonyme d'avarice, en plus d'être perçu comme sale et répugnant. Michel Dancel, lui, un historien, a donc voulu changer un peu les choses, en réhabilitant le rat de manière quand même peut-être un peu exagérée.
La grande devise de l'Académie internationale du rat, c'est...
Donc vous êtes le fondateur.
Bien sûr, c'est liberté, égalité, fraternité.
Ah oui. Et si je vous comprends bien, ce dont les rats manquent le plus, c'est un peu d'affection, quoi.
Ah oui, ils ne demandent qu'à être compris.
Votre espoir pour l'avenir, évidemment, vous le placez dans les rats.
Absolument. Dans quoi pourrait-on placer son espoir sinon dans les rats ?
Bah oui, alors, en quoi pourrait-on placer son espoir sinon dans les rats ? Vraiment, je vous le demande, quoi. C'est une question essentielle. Enfin, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Bon, alors t'inquiète pas, Gudule, on est d'accord, n'allons pas pousser le bouchon aussi loin. On s'est plongé dans les siècles passés, mais maintenant, interrogeons-nous, quelle est l'histoire récente du rat ? Plongeons d'abord au cœur et sous les villes, le terrain de jeu du rat. La ville, c'est le domaine du rat d'égout. Vous voulez vous faire peur ? Eh bien, écoutez ça. Il y aurait à Paris, et là je cite un article paru dans Libération, entre 4,5 millions et 6,5 millions rats. Soit, c'est vrai que c'est des chiffres un petit peu comme ça qui peuvent paraître pas forcément très parlants, même si bon, c'est quand même un peu impressionnant, mais il y aurait en fait une population de rats qui équivaudrait à 2 à 3 fois la population humaine de la capitale. Et même des études moins pessimistes sont effrayantes, puisqu'elles nous apprennent qu'il y aurait à Paris 2 millions de rats. Alors tout va bien quand les rats sont dans les égouts, mais un peu moins quand ils en sortent. Et oui, Gudule, ça peut arriver. Quand on démolit les halles pour les Jeux Olympiques de 1968 à Paris, les journaux titrent « 200 000 rats sur 4 millions qui hantent les égouts de Paris menacent d'envahir la capitale ». Et lors de la récente crue de la Seine en janvier 2018, les rats chassés des égouts sont tous remontés à la surface. Alors, avec les grandes opérations d'urbanisme, les rats ne sont donc pas plus nombreux, mais plus visibles, car ils sont délogés. Et puis aussi, ils sont plus visibles par notre faute, puisque la prolifération des fast-foods et des déchets les attire. Alors oui, t'as raison, Gudule. Face à ça, il faut lutter, dératiser, éliminer la vermine, le crasseux, le grouillant, l'envahisseur. Bref, dératiser ? Mais comment ? Explique-nous ça, Gudule. Imaginez, vous êtes maire et vous voulez éviter que votre ville soit envahie par les rats. Que faites-vous ? Solution 1, organiser un concours, comme en 1910 dans la ville de Paris. Un concours dont le vainqueur se verra décerner le titre de capitaine de raterie. Solution 2 maintenant, pour lutter contre les rats, l'argent et la créativité. Par exemple, en 2017, le maire de New York, Bill de Blasio, présente un plan anti-rat à 32 millions de dollars pour lutter contre les 2 millions de rats qui grouillaient dans les égouts de la grosse pomme. Au programme, contraception, glace carbonique pour asphyxier les rongeurs, poubelles intelligentes et pièges à alcool. Et solution 3 la plus originale, recourir à la propagande. Oui, Gudule, tu as bien entendu, à la propagande. Puisque aux États-Unis, et encore très récemment, de grandes affiches ornaient les murs des villes pour dire « Attention au rat, notre pire ennemi », et le rat était même comparé à l'ennemi allemand. Bref, tous les moyens sont bons pour dératiser. Alors, je voudrais maintenant te poser, Gudule, une grande question. Le rat est-il, oui ou non, un grand méchant? Alors d'abord, oui, le rat c'est dégoûtant, sale et inutile. On m'a dit que c'était bien d'être caricatural à la radio, du coup je suis des conseils. La preuve de cette inutilité des rats. En un an, les rats noirs et les surmulots consommeraient 33 millions de tonnes de nourriture et détruiraient 30% des récoltes sur pied. Ils s'attaquent aussi aux réserves alimentaires qu'ils mangent ou salissent avec leur déjection et sont reconnus comme des espèces invasives qui bouleversent les écosystèmes. Et manque de chance, comme ils ont un odorat très développé et communiquent par ultrason, ils sont très habiles pour éviter nos pièges. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, oui. En effet, c'est vrai, parfois le rat peut attaquer les hommes. Comme il doit avaler entre 19 et 30 grammes de nourriture par jour, il peut s'attaquer à des animaux type porcelet ou volaille, et même à l'homme, on recense des cas de morsures sur des enfants ou des SDF. Et puis les rats peuvent aussi causer des dégâts indirectement. Par exemple, la collision de trains, qui a fait une quarantaine de blessés près de Pau en 2014, ou l'arrêt du refroidissement d'une centrale nucléaire au Japon, était en partie dû à... Exact, des rats qui avaient rongé les gaines des câbles électriques et endommagé les systèmes. Autre problème, le rat se reproduit très vite, et en un an, un couple de rats peut engendrer jusqu'à 900 descendants. On n'est pas dans la merde. Mais figure-toi, Gudule, que parfois le rat peut nous rendre service, voire nous sauver. Et si, Gudule, tiens, tu nous emmènes dans un petit voyage dans le temps ? 1870, siège de Paris. Les rats ont permis aux Parisiens de ne pas mourir de faim pendant le siège, puisque, bon appétit, ils étaient à la carte des restaurants, et même les plus cotés. Au menu, rat braisé, rat au macaroni, salmi de rat sauce Robert, rat en giblotte. Et en 2012, pour l'anecdote, l'artiste américaine Laura Jean, vêtue pour l'occasion d'une peau de rat, a composé un menu spécial rat avec terrine et rôti. 1942 maintenant, des rats ont mangé les fils électriques de 104 chars allemands en attente de ravitaillement. Et maintenant, retour à nos jours. Attends, Gudule, t'es sûre que les rats peuvent encore nous servir à quelque chose aujourd'hui ? Ah bah oui, en effet, t'as raison. Ils permettent de nourrir certaines communautés rurales d'Asie du Sud-Est ou d'Inde et d'Afrique. Et puis, ils nous rendent aussi service quand ils dévorent les ordures et contribuent à déboucher nos égouts grâce aux galeries qu'ils creusent. Écoutons à ce sujet Michel Dancel, encore lui.
Que le rat, finalement, est un travailleur social. Simplement, la grande différence qu'il y a entre le rat et un travailleur social, c'est que le rat ronge bénévolement.
Bon, bref, on en pense ce qu'on veut. Et le meilleur pour la fin, certaines espèces comme les rats géants de Gambie, agiles, légers et possédant un odorat plus puissant que celui d'un chien, oui c'est impressionnant, sont utilisés pour détecter des mines antipersonnelles au Mozambique ou pour détecter la tuberculose à partir de crachats. Et enfin, même si c'est plus pathétique, les rats ont aussi su nous distraire. Ben oui, moi aussi je me demande comment. Eh bien, avant la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, une pratique consistait à enfermer un homme et une douzaine de rats dans un enclos et à les regarder s'affronter. De même, en Angleterre, on adorait le waiting sport, chien et rat se battant à mort dans un ring. Et on trouvait même à Paris et jusqu'en 1930 un ratodrome à Rennes où était mis en scène un combat entre chien et rat. Jusqu'à 300 spectateurs s'y presseront pour observer la finale du Ratier Club de France.
Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Attrapez-le ! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine ? Allez, ouste ! Emmenez-le ! Aux poubelles, commis !
Alors le rat, on le voit, se glisse partout dans les maisons, dans les croyances populaires, et on vient d'entendre dans les cuisines et dans le cinéma, mais aussi dans l'art et la littérature, la preuve. Alors, tu as raison, Gudule, bien souvent les rats sont perçus négativement comme des bêtes sales et invasives, et ils nourrissent surtout les films d'horreur, du type le film Willard, dans lequel un protagoniste solitaire et timide se lie d'amitié avec des rats. Quand son patron tue Socrate, son rat albinos favori, Willard demande à son armée de rats de tuer ce boss qu'il déteste tant. Mais problème, les rats prolifèrent rapidement, Willard ne peut plus les nourrir, et il doit faire face à une armée de rats bien décidée à se venger. En littérature, c'est la même chose. Le rat, celui qui envahit, c'est celui qui pervertit les sociétés. Mais, preuve que le rat n'est pas si ragoûtant que ça, le blason de la famille du dramaturge Racine comportait... Alors, vous pouvez le deviner. Racine. Eh bien, un rat et un cygne. Bon. Bah oui, hein, c'est marrant, Gudule. Hein. Bon, alors, en revanche, l'auteur de Phèdre n'a ensuite pas gardé le rat, et la célébrité lui est sans doute montée à la tête. Et puis, n'oublions pas les petits rats de l'opéra, jeunes danseuses qui vous en conviendraient, n'ont rien de ragoûtant. Et puis, d'ailleurs, le rat peut aussi être parfois lié au sacré. Par exemple, il y a un lien entre Apollon et les rats, puisqu'on appelle Apollon le dieu rat. Pourquoi ? Parce qu'Apollon a le pouvoir de guérir, et qu'à l'époque, le petit rat était un remède plongé dans le miel et donné à avaler aux enfants malades. Oui, c'est peu ragoûtant. Bref, aujourd'hui, les rats ont toujours leur place en BD. Vous lirez le Bal des Morts de Jean-François Charles. Ils ont aussi leur place dans les jeux vidéo. Je vous conseille notamment d'aller voir le jeu Plague Take Innocence, un jeu vidéo au graphisme impressionnant des orphelins fuyant l'Italie du XIIe siècle et fuyant cette peste. Et les rats ont également une place dans les estampes japonaises. Et en musique aussi, le rat est bien présent. On peut citer l'album Hot Rats de Frank Zappa, l'album Rattus Norvegicus et bien d'autres. Mais alors pour finir cette émission, j'ai une question pour vous. Pourquoi a-t-on si peur du rat puisqu'on l'a vu, il ne semble pas si affreux que ça? Eh bien, d'abord parce qu'il ronge et détruit, il est synonyme de dévastation. Ensuite parce que c'est une créature des ténèbres, associée aux créatures diaboliques et objets de superstition. Mais aussi, et c'est intéressant, parce que le rat est associé à l'image de l'autre. Et d'ailleurs, plusieurs psychanalystes ont parlé de tout ça. En fait, le rat serait un miroir, un révélateur qui nous renvoie l'image de nous-mêmes, qui est la plus humiliante, la plus désolante, celle de la saleté. Et oui, une psychanalyse de la peur du rat, c'est possible, d'autant plus qu'on sait que le rongeur est associé à la torture. Le supplice du rat consiste par exemple à placer un rat affamé dans un bocal sur le ventre d'un supplicié et à chauffer le bocal pour pousser le rat à s'échapper en creusant un passage à travers le corps du condamné. C'est peu ragoûtant. Bref, Baudelaire prenait de la boue et en faisait de l'or, et bien prenons le rat et faisons-en un sujet un peu plus intéressant qu'il n'en a l'air. Et rappelons-nous que ce qui est moche et mal aimé a aussi des choses à nous cacher, c'est ce qu'il faudrait chasser. Et ce qu'il faudrait chasser d'un coup de pied, c'est certes les rats, mais aussi les idées reçues. Alors portons sur les choses moches, les choses laides, les choses sales, un regard nouveau, et laissons-nous surprendre en cette période d'Halloween, parce qu'elles ont à nous apprendre. Sur ce bon direct, à bientôt dans Passerelle pour de nouveaux voyages, et nous passons maintenant à un tout autre sujet, les spectres.
Vous êtes en direct sur Transistor.
Je n'ai pas de cerveau. Et bientôt, vous non plus.
Non, 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 non.
Des bonbons ou des farces?
On dit des bonbons ou un sort?
Le mieux dans Halloween, ça reste quand même les citrouilles. Voilà.
Need.